Le masque et la plume. Bonsoir et bonne année à toutes et à tous. Bienvenue en public au Théâtre de l'Alliance Française pour Un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec la sainte famille de la critique. Eva Béton de France Inter, Charlotte Lipinska de Vogue, Pierre Murat, qui est venu avec son smoking du 31, oui, de Télérama.fr, et Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession, et de France Inter, lui aussi, tous les samedis soirs, une heure en série, que vous ne manquez pas, j'espère. On parle ce soir des filles du Dr March, de la vérité, de l'art du mensonge, de la sainte famille, du lac aux oies sauvages, de séjour dans les monts Fuchun et de Jésus dans le courrier de la semaine. Marianne Schlegel a aimé, contrairement à beaucoup d'auditeurs, Gloria Mundi de Robert Guédiguian, dont on parlait la semaine dernière, un film terriblement réaliste, magistralement désespérant, lumineusement noir. Je ne sais pas, ajoute Sylvie Tanet, la romancière d'un jardin en Australie qui est née à Marseille. Je ne sais pas si le film veut montrer la fin des idéaux, mais je crois qu'il dit que la population qui n'a pas été dans le collectif s'est fait avoir. Ceux qui n'ont pas été structurés politiquement n'ont rien compris à ce que le libéralisme allait provoquer, mais l'espoir n'est pas mort, ajoute Sylvie Tanet, puisque des gens sont là pour continuer la lutte. Ces jeunes gens d'origine africaine dans le film qui travaillent avec Ariane Ascaride sont prêts d'ailleurs pour un mouvement de grève radical. Gloria Bernard de Draveil nous dit « J'aime bien Gérard Mélan, mais je vous trouve exagérément dithyrambique à chaque film de Guédiguian. Et je me permets cette question à vos critiques. S'il est si génial que ça, et que vous le répétez, comment se fait-il que personne à part Guédiguian ne le fasse tourner? Je serais ravi que vous éclairiez ma lanterne. » C'est pas vraiment un argument, si, Xavier?
D'abord, c'est pas vrai. Il a tourné pour d'autres cinéastes, et je crois qu'il a pas envie de faire le métier d'acteur, tout simplement.
Et puis, il n'empêche, il est formidable.
Et il est formidable, voilà.
Pour Pascal Hénard de Bourg-les-Valences, Gloria Mundi est un beau film noir, mais avec un scénario qui n'arrive pas à éviter la caricature. Pour Guy Angela de Mélan en Isère, à la vision de cet excellent film, on n'a plus de doute sur les causes de l'explosion sociale, même si Guédiguian charge un peu la barque. Mais ses comédiens sont toujours aussi bons. Mention spéciale à Gérard Mélan. Pour Jean-Marc Junot de Lyon, la barque est également est trop chargée. Désolé, mais plus de plomb dans ce film que dans la toiture de Notre-Dame. Tiphaine Robert ne comprend pas notre sympathie pour Gloria Mundi qui m'a carrément énervé, nous écrit-elle. Je veux bien que notre société soit détestable, mais à mon avis, Ken Loach réussit beaucoup mieux à filmer l'humanité dans notre monde détestable. Pour Jérôme Duvivier de Lyon, c'est un film débordant de bons sentiments et flattant honteusement son public. Peut-être que honteusement est excessif. Le sommet du consensuel étant de taper sur Macron. Comparer Gloria Mundi avec ce grand film qu'elle est misérable, film courageux et riche de complexité, tout le contraire de Guédiguian. Qu'est-ce qu'il y a, Pierrot?
Non, c'est Les Misérables qui me...
Mais t'as le droit, tu peux t'exprimer, t'es pas...
Non, mais c'est un film très surfait, Les Misérables, tandis que l'autre est quand même un film assez profond sur la misère sociale, voilà.
Françoise Cabiron a jugé Gloria Mundi superficielle, caricaturale. Delphine Blanchard de La Roche-sur-Yon ne mâche pas ses mots. Gloria Mundi est un film de vieux cons où les jeunes sont des petits salopios individualistes et avides de réussite et où les vieux, eux, ont de belles valeurs. Ce film est un monceau de clichés. Et puis, ce que Guédiguian veut nous démontrer, ajoute Pierre Cusor, c'est que l'ancienne génération est beaucoup plus solidaire et humaniste que celle des jeunes actuels qui sont soit arrogants, soit victimes et défaitistes. Le spectateur qui a vu le dernier film de Ken Loach avec le même sujet ne peut que reprocher au réalisateur français un manque de subtilité qui tue souvent toute émotion. Mais Ariane Ascaride est magistrale dans son rôle de mère courage et Gérard Mélan, une fois de plus, extrêmement touchant. Voilà, rien à ajouter à ce courrier.
Que si, Parasite, Eva, sur le rapport de classe sociale, c'est meilleur que le Guédiguian, je trouve. Parasite, c'est les riches et les pauvres, mais avec un humour, avec une inventivité. Formidable.
Ne parlons pas de Parasite non plus, parce que c'est quand même très surfait.
On peut refaire.
Parasite
surfait, non mais c'est incroyable.
Je préfère l'argent de la vieille comédie.
Qu'est-ce que tu vas dire, Pierrot, des filles du docteur March? Parce que c'est pas les quatre, hein, c'est les filles du docteur March.
Il y en a plus quatre, mais enfin si.
De Greta Gerwig. Avec Sir Sharon Ann, j'ai réussi à le dire, Emma Watson, Laura Dern, Meryl Streep, Florence Pugh, Timothée Chalamet, Louis Garrel. Voici donc que Greta Gerwig, l'égérie du cinéma indépendant américain, adapte après tant d'autres ce roman culte de Louisa May Alcott, paru, je vous le rappelle, en 1868, que Simone de Beauvoir ou Patti Smith ou encore Elena Ferrante ont considéré comme un pur brûlot féministe. Et dans la Nouvelle-Angleterre des années 1860, ça n'a pas changé, hein, pendant la guerre de sécession, ça n'a pas changé, un père part pour un voyage, en fait il part pour le front, laissant ses quatre filles et sa femme derrière lui, face aux difficultés de la vie quotidienne en temps de guerre. Je vais pas demander, ça dure 2h15, je vais pas demander à Pierrot de nous rappeler toutes les versions de March. Il y en a eu beaucoup, hein.
Oui, il y en a eu beaucoup. Il y a Catherine Hepburn.
C'est la cinquième, je crois.
Ce qui m'a évidemment le plus troublé, c'est ce mariage, voilà, de ce classique de la littérature anglo-saxonne et de la jeune Madame Baumbach ou Greta Gerwig. Pierrot.
Eh ben, c'est l'égérie du cinéma américain indépendant, mais elle est déjà extrêmement expérimentée, très classique et très académique. Sur le, enfin, c'est un film le plus académique qu'on puisse voir, quoi. Enfin,
lâche-toi, Pierre, lâche-toi.
Il a un peu de mal à le dire, simplement
parce qu'en effet, parce que c'est elle, je crois.
Oui, on s'attendait à autre chose, en fait.
On s'attendait à autre chose. Voilà. On s'attendait à quelque chose d'un tout petit peu plus vif, d'un tout petit peu plus féministe. Et alors, la seule idée qu'elle a eue, en fait, c'est de faire des flashbacks. Enfin, c'est-à-dire que des retours en arrière dans le temps, qui sont extrêmement maladroits. À un moment donné, on ne sait même plus exactement où on est. Est-ce qu'on est dans le présent, dans l'ancien?
Oui, parce que contrairement aux autres films et aux livres, la guerre de sécession est lointaine. Elle est vraiment en arrière-plan, hein.
Oui, mais enfin, c'est vraiment un album d'images, comme Hollywood en faisait il y a 70 ans, comme il en fera, je pense, j'espère, si le cinéma existe dans 70 ans. Elle n'apporte rien, c'est tout à fait correct, on voit ça sans s'ennuyer un seul instant, mais c'est à peine du cinéma, quoi. Enfin,
Charlotte,
voilà.
Sans s'ennuyer, faut le dire vite, hein, Pierre, quand même. D'une certaine manière, je trouve le film répond à ce qu'on en attend, mais il révolutionne absolument rien. Et c'est vrai que de la part de Greta Gerwig, là, pour le coup, moi, j'attendais quelque chose d'un peu plus nerveux, d'un peu plus moderne. La narration dont parlait Pierre, donc qui se passe sur différentes temporalités qui sont montées en parallèle, est totalement alambiquée, mais de manière artificielle, ça n'amène rien. Et puis, tout ce qui est dit sur la condition des femmes et le discours assez féministe qui sous-tend tout le film, c'est tellement démonstratif dans les dialogues, quoi. C'est vraiment en enfilant une robe, l'une des filles qui dit à sa mère « Oh là là, maman, mais je suis une fille, je vais pas pouvoir avoir un métier, je voudrais être indépendante financièrement. Oh, si j'étais un garçon, je pourrais aller à l'école. » Enfin bon, tout est surligné au stabilo boss. Alors reste quand même le plaisir de voir Meryl Streep et puis un casting assez pimpant parce qu'elles sont toutes... On se demande ce qu'elle fait là. Mais bon, le casting suffit à ce qu'on passe un joli moment, mais alors 2h15, ça n'en finit pas. Hein.
Xavier ?
Le roman est daté, mais il a 150 ans. La réussite du film, c'est qu'il est daté alors qu'il a 15 jours. Donc c'est quand même un exploit, il fallait le faire. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est une relecture du roman qui n'apporte absolument rien. Alors, j'adore mes petits camarades qui vénèrent Greta Gerwig, parce qu'ils vénèrent Noah Baumbach. Enfin, il y a un moment, faut arrêter l'herbe généalogique. Qui vont aller chercher du féminisme là où il n'y en a pas du tout. Il y en a plus dans La Petite Maison dans la Prairie. Pour vous dire quand même le haut niveau. C'est toujours le même élevage de dindes en batterie. Ils sont là en train de s'exciter parce qu'elles vont faire un sapin de Noël. Pas très féministe quand même. Alors, Timothée Chalamet, quand même pas non plus un parangon de virilité, arrive, elles sont toutes là, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Bon, Voilà, alors le féminisme du roman a déjà pris un petit peu du plomb dans l'aile. Le film est d'un classicisme. Moi, je l'ai vu un tout petit peu avant Noël. J'ai failli aller voir trois fois Le Four, si la dinde cuisait bien, parce que c'est le genre de truc qui passe sur M6 le 24 décembre en version française. Enfin, vous voyez, le truc vraiment, vous pouvez aller faire pipi, vous pouvez pas prendre un café.
T'as pas le sentiment que t'exagères un peu? Non.
Ah, mais, non. Mais si, parce que si tu as vu les autres avec Elizabeth Taylor, oui. C'est quand même, on l'a déjà vu 1000 fois, ça ne réinvente rien, il y a, t'es pété de thunes. Alors, les boules de sapin, ça, je peux vous dire qu'il y en a. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Laura Dern, qui est une actrice magnifique, elle est sous-exploitée. C'est même pas vintage, c'est poussiéreux.
Eva?
Alors, moi, je dirais qu'il y a une déception à deux égards. Au regard du mélo. Parce que, par exemple, rater la scène où c'est Joe vrai. Se coupe les cheveux, mais oui. C'est un truc majeur dans le mélo. Il y a des moments de mélo. Elle rate ces moments de mélo. Elle ne fait exister qu'un personnage, qui est le personnage majeur, qui est Joe, celle qui veut s'émanciper, etc. Les autres n'existent pas. En fait, elle ne fait pas vivre les autres sœurs. Des moments qui sont extrêmement émouvants dans le mélo, comme la mort d'une des sœurs. Tout le monde a lu les 4 filles d'Outer March, donc je spoil pas. Ça n'existe pas. Donc,
le titre original, c'est Les filles d'Outer March. Oui. Hein, c'est
et
pas
donc,
les 4.
D'une part, elle réussit pas le mélo, ce qui est quand même un pompon, et d'autre part, elle ne tire rien du mélo. Par exemple, elle n'arrive pas à faire comprendre ce que c'est que la sororité, qui est une très belle idée. Vous l'avez beaucoup plus dans un film comme La vie invisible de Régis Guismaux, qui est un film magnifique sur le lien entre les sœurs.
Dont on a parlé la semaine dernière.
Exactement. Et on voit ce qu'un réalisateur fait du mélo. On lui donne un mélo, elle ne tire pas quelque chose du mélo. Donc on lui demandait pas un anachronisme de nous faire un Brûlot féministe d'aujourd'hui, mais d'avoir une lecture. Il n'y a pas de lecture.
Mais c'est très difficile.
Et elle ne sait pas faire le mélo.
C'est très dur de faire
donc,
un beau mélo.
Elle échoue aux deux plans.
Ben oui,
mais... C'est donc Les filles du docteur March, enfin ce qu'il en reste.
Ouais. Rhabillées pour l'hiver.
De Greta Gerwig. La vérité, le premier film français du japonais Kore-eda, Hirosaku, pour être tout à fait précis, Palme d'Or, vous le savez, au dernier Festival de Cannes pour Une affaire de famille, avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke, Ludivine Sagnier et Catherine Deneuve, dont je rappelle qu'elle a été victime le 5 novembre dernier d'un accident vasculaire. C'est ici Fabienne, une star du cinéma qui lui ressemble beaucoup. À croire que dans cette vérité, elle ne joue pas, mais qu'elle se joue elle-même, alors qu'elle publie enfin ses mémoires, qu'elle n'a jamais publiées, enfin la vraie Catherine Deneuve, hein, où elle ment à chaque chapitre, elle reçoit dans sa très jolie maison parisienne, qui se trouve d'ailleurs juste derrière la maison de la santé, on n'arrive pas très bien à la localiser. Donc elle reçoit pour un séjour qu'elle espère bref, sa fille Lumière, c'est donc Juliette Binoche, une scénariste, qui a épousé l'Américain Ethan Hawke, qui a choisi de vivre à New York, c'est-à-dire le plus loin possible de cette mère qu'on surnomme la sorcière. C'est un jour qui va réveiller de vieilles rancœurs, mais qui ne va pas empêcher l'actrice d'aller jouer, pour un film d'anticipation, le rôle de la fille âgée d'une mère éternellement jeune. Alors, c'est sûr qu'on ne retrouve pas ici le Kore-eda qu'on aime le plus, mais l'autoportrait qu'il propose de Deneuve, surtout actuellement, est particulièrement savoureux. Une Deneuve boulimique de boulot, qui lâche des phrases comme, je les ai notées, « J'aime mieux être une mauvaise mère et une mauvaise amie qu'une mauvaise actrice. J'ai choisi d'être aimée par le public plutôt que de rendre une seule personne heureuse. Ou alors, j'ai toujours rêvé de vivre dans une ville où personne ne me connaisse. » Eva, qu'en as-tu pensé?
Alors, j'ai d'abord regardé ça bêtement avec un regard de mathématicien, en me disant « Kore-eda, magnifique cinéaste, plus Deneuve Binoche, ça doit être exponentiel. » Donc, première réaction, déception. Deuxième réaction, plus je réfléchis, plus je trouve ça un film enchanteur. Il ne faut pas raisonner en matheux. Il faut voir que Kore-eda, il ne faut pas attendre qu'il fasse en France ce qu'il faisait ailleurs. Il a l'intelligence, comme les grands cinéastes, quand ils vont ailleurs, c'est ce que fait Kiarostami quand il va au Japon. Il filme autre chose. Il fait quelque chose qu'il ne peut pas filmer chez lui.
Et attends, et il est filmé en plus dans une langue qu'il ne comprend
qu'il
pas.
Qu'il ne comprend pas, mais c'était pareil pour Kiarostami au Japon, où il filmait une couleur. Là, il dit, je filme ce que moi, j'ai jamais filmé de ma vie, une star. Qu'est-ce que c'est qu'une star? Et je vais prendre ce qui a dû nourrir son imaginaire de ce que c'est que le cinéma français. Une grande maison, on l'a vu, chez Assayas, Téchiné, chez la moitié des cinéastes français. Le film dans le film, Truffaut, etc. Plein de références. Et il fait sa chose à lui. Et à la fois, il fait un film d'étranger, il fait un film de référence au cinéma français. Il fait une chose qu'il n'a jamais faite, un portrait formidable de Catherine Deneuve, ou qui est regardé comme
qui dans commence un par une interview.
Ah mais une interview.
On a tous interviewé Catherine Deneuve. On s'y croirait tellement, elle est méchante, drôle.
Elle est imprévisible, elle peut dire une chose, elle par ailleurs. C'est elle, et c'est une elle de fiction. Et en même temps, il va prendre certains de ses thèmes, qui sont la famille, la vérité, le mensonge, on l'a vu dans certains de ses films. Mais cette fois, il fait la famille avec deux adultes. Il a toujours filmé des parents et des enfants à l'âge de petits-enfants. Donc voilà, il va prendre des choses qui sont dans cet Amélie, mais de manière très lointaine. Et donc, je trouve ça extrêmement réjouissant, parce qu'il faut le prendre comme un exercice
voilà, mais d'un grand cinéaste. Là où tu as raison, c'est qu'il ne faut pas y aller si on veut retrouver le Koreeda japonais.
C'est l'erreur des deux premières minutes,
connaît,
après vous la rayez de votre tête.
Xavier.
Et après, c'est très réjouissant.
Et ben moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve que c'est un film de Koreeda, oui. Plein de points de vue. À chaque fois qu'il a filmé des personnages de grand-mère, Still Walking par exemple, ou après La Tempête, ça a libéré sa perfidie naturelle. Parce que c'est un cinéaste derrière les apparences comme ça de Koreeda qui serait un cinéaste un peu raisonné, sage. C'est un cinéaste de la perfidie et de la méchanceté. Et il se libère une fois encore. Rappelons-nous le personnage de la grand-mère dans Après la Tempête qui finit par lire ses enfants et ses petits-enfants et qui était quand même une perfide, hein, une garce. Et ben, il y a de ça dans le personnage de Deneuve. Et en même temps, c'est un vrai film de Koreeda, c'est-à-dire qu'il a assuré jusqu'au montage du film, et la manière dont dans ce huis clos, les personnages rentrent et sortent dans les pièces, essayent de s'éviter, ce que évidemment facilite cette maison un peu bourgeoise comme ça de Paris, c'est exactement son cinéma, c'est-à-dire que c'est exactement la manière dont la mise en scène se joue sur la façon dont les personnages rentrent, sortent du cadre, se regardent. Donc c'est du Koreeda made in France, avec deux comédiennes qu'il sacralise, et en même temps qu'il désacralise, qui sont Deneuve.
Non, il sacralise pas, mais... Binoche dans ce film, il sacralise de...
Mais si, Binoche, elle est absolument formidable.
Oui, mais elle est formidable, mais elle n'est pas sacralisée.
Mais si, dans une certaine manière, parce qu'elle dit merde à sa mère, elle dit merde quand même à la comédienne qui est Catherine Deneuve. Je trouve qu'il y a un travail qui est assez intéressant. Il y a un garçon qui est Ethan Hawke, qui alors vraiment est castré à la fois par l'épouse et par la belle-mère.
Ah, ouais, on pourra noter que tous les hommes masculins quand même film sont passablement
sacrifiés. Mais les hommes sont souvent masculins.
Ils ressemblent à pas grand-chose.
Dans ce film, en tout cas, c'est clair.
Mais c'est là où on retrouve tout le cinéma de Corée. Je suis désolé, c'est pas une exception. Oui. C'est pas quelque chose qui digresse par rapport à son œuvre. C'est une continuité et en même temps, avec il revisite son style. Et c'est un film que je trouve brillant.
Et puis c'est vrai qu'il sort, enfin il vient de sortir au moment. En plus, on a forcément aussi une pensée pour l'actrice. On peut pas non plus. Nous, on l'a vu avant cet accident qu'elle a eu, mais de savoir qu'elle est hospitalisée et que c'est peut-être la quintessence de la star de Deneuve qui apparaît à l'écran. Évidemment, ça entre en ligne de compte, Charlotte.
Oui, et Deneuve qui est particulièrement bien filmée, je trouve. Elle est magnifique dans le film, resplendissante, et c'est vrai que voilà, ça c'était génial de la voir jouer cette actrice, de jouer avec tout ce qu'on projette sur elle, de sa vie, de son humour qu'on connaît, de sa perfidie, comme disait Xavier. Mais maintenant, moi, je trouve le film trop gentil, c'est-à-dire que je trouve que c'est pas assez méchant pour que ce soit véritablement drôle, et c'est pas assez cruel non plus dans les rapports mère et fille pour que ce soit vraiment émouvant. C'est-à-dire, une fois mis en place dans cette maison, tous ces personnages, je trouve qu'il se passe pas grand chose.
Si.
Ça tourne un petit peu en rond. Ah. Non, je regrette.
Et
Koreeda, il est trop gentil. Il a un cœur de bisounours et donc on frôle la mièvrerie. Dès qu'il y a une petite pique cinglante, tout de suite derrière, il rattrape ça par une caresse. Ben moi, j'aurais aimé que ça tire un peu plus les cheveux. Enfin, je dis ça parce qu'il y a toute une scène où elle se brosse les cheveux. Donc voilà, passer le plaisir de voir Binoche et Deneuve s'envoyer des piques à longueur de journée, je reste un petit peu frustré quand même. Ça n'est pas le grand portrait, évidemment. On pense à Mankiewicz, on pense à All About Eve, toutes ces...
Non, en général, c'est Pierrot qui pense à Mankiewicz.
Et ben là, moi, j'y pense pour lui.
Merci,
et donc, j'ai cette petite frustration-là.
En plus, tu as tout à fait raison.
C'est quand même un petit côté Sonate d'automne de Bergman.
Aussi, bah oui.
Clairement un hommage.
Ben oui, mais alors, Non, mais je trouve que Xavier a tout à fait raison. C'est un film, mais alors, totalement de Koreeda, mais un film très moyen de Koreeda. C'est-à-dire que c'est un Koreeda qui n'a pas ses repères, qui n'a pas ses comédiens, qui n'a pas son univers et qui est totalement paumé. Alors, on peut trouver ça charmant, on peut trouver ça plein d'élégance, on peut trouver ça, comme toi, Charlotte, je suis d'accord, extrêmement mièvre. Tout ce que ça dit sur le cinéma, c'est rien. Koreeda, il est très très bon quand il peint des adolescents et des femmes. Alors, les femmes, il les réussit à peu près, surtout Deneuve. Mais alors, les mecs, en général, chez lui, ils n'existent pas. Et alors, le pauvre Ethan Hawke, mais qu'est-ce, Ethan Hawke qui est un des plus grands comédiens, enfin pour moi, ben, il n'avait rien à faire, c'est désolant. ça se traîne beaucoup. Alors, il y a une réplique que j'aime beaucoup, c'est quand Catherine Deneuve dit à un moment donné, pour un jeune réalisateur un peu précieux, enfin pas précieux, esthétisant et tout, il dit, mais ça bouge tout le temps, et on peut acheter un pied de caméra, ça coûte pas cher, un pied de caméra. Et ça, je trouve ça extrêmement juste, parce que je trouve qu'esthétiquement, actuellement, il y a plein de jeunes cinéastes qui font trembler leur image et bouger leur caméra, alors qu'ils achetaient un pied de caméra, ça fait un plan fixe, et c'est très 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 beau aussi. Mais à part ça, c'est un tout petit film, et je crois que simplement c'était une mauvaise idée de faire venir un réalisateur japonais comme Koreeda pour faire cette petite histoire sans grand intérêt.
Que vous le vouliez ou non, je pense que ça restera dans la filmographie de Deneuve et comme un portrait, autoportrait qui...
Oui, oui, mais Deneuve est très bien, oui.
Oui, mais enfin, à mon avis, il est plus que ça. La Sainte Famille, le deuxième film comme réalisateur de l'acteur Louis-Do de Langsin, avec Louis-Do de Langsin, Marthe Keller, qu'on aime toujours beaucoup, Laura Smet, Léa Drucker, et même dans un tout petit rôle du régisseur campagnard, je le rappelle, mon homonyme, Henri Garcin, et après il y avait un peu d'âge. Hein. Et Louis-Do de Langsin, c'est Jean, un anthropologue de renom, dont on ne comprend pas vraiment, enfin moi j'ai pas compris comment ni pourquoi il devient du jour au lendemain ministre de la famille, la sienne très bourgeoise, est très compliqué à suivre. Alors il y a la mère lointaine, c'est Marthe Keller, qu'il vous voit, il y a sa femme, Léa Drucker, qui n'est jamais là, il y a sa cousine, Laura Smet, avec laquelle il couche, enfin au moins une fois, il y a son frère un peu truand, c'est Thierry Godard, il y a une ribambelle d'enfants, je vois le propos, je ne comprends pas le scénario, ça dure 1h30, Pierrot.
Ben, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que c'est un film sur la famille, on en a beaucoup.
Oui, mais ça,
il y en a. C'est pas sans charme, c'est-à-dire que moi j'aime beaucoup le personnage de Marthe Keller d'abord.
Ah oui, mais je l'aime toujours.
Ben, Marthe Keller, elle est formidable. Mais là, en plus, elle vous voit ses enfants, puis elle décide de les tutoyer, et quand ils disent bon, on peut te tutoyer, alors là, ah ben non, sûrement pas. Vous voyez, bon, il y a plein d'idées comme ça. C'est vrai que c'est pas extrêmement clair ce qui s'y passe, mais à la limite, on s'en ficherait s'il y avait une force de mise en scène. Or là, c'est assez gracieux. Mais je vois pas exactement à quoi ça sert. C'est-à-dire qu'il y a des films quand même où on se dit, bah oui, c'est une dénonciation de la famille, ou bien c'est une ode à la famille, ou bien... Et alors là, c'est oui, il y a des secrets de famille, il y a des personnages très attachants comme Brigitte Aubert qui vient là, qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Brigitte Aubert, c'est évidemment pour les cinéphiles, elle jouait à Hitchcock, La main au collet, célèbre. Bon, voilà, tout ça.
Mais elle n'a pas joué avec Mankiewicz, je crois pas.
Non, pas avec Mankiewicz, il l'a loupé, Mankiewicz, Brigitte Aubert. Mais voilà, je trouve ça...
Je trouve qu'il n'y a pas de crédibilité, c'est-à-dire que quand il devient ministre, on n'y croit pas.
Je ne crois pas que ça soit... Le réalisme n'est pas vraiment le point fort du film, mais ce n'est pas ce qui l'intéresse le plus. C'est simplement que c'est un peu évanescent, tout ça.
Eva ?
Il y a des films, on dit, je n'ai pas compris, parce que c'est un film compliqué. Là, c'est un film simple, et auquel, quand le film est terminé, on se dit, je n'ai pas compris. Mais je me mets autant en cause que le réalisateur. Alors je vois des pistes, il veut parler de la filiation, d'où vient la naissance, est-ce que c'est si important que l'enfant soit l'enfant ? Bon, mais c'est posé comme des choses, comme des petits bouts là, qui ne s'agrègent pas pour faire une histoire. Après, il y a l'histoire d'une famille, mais outre qu'on l'a déjà vu, mais on peut le refaire 2 millions de fois, elle n'a pas d'existence véritable, il n'y a pas vraiment de chair des personnages, il n'y a pas vraiment de... On dirait que lui-même n'est pas convaincu dans son film.
Pourtant, il ne se déteste pas. Hein. Il est à chaque plan.
Il est à chaque plan. Et le film s'arrête. Et le film se finit par une réplique drôle. Et je me dis, le film va commencer. Non, c'est le moment où je suis sortie de la salle.
Charlotte.
On pourrait presque dire que tout ça est assez annoncé, on va dire, par la scène inaugurale du film où ce professeur fait un cours sur les anguilles et où il explique que les anguilles quittent le fleuve pour aller dans la mer se reproduire. Que ça reste un mystère et que le mystère, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Ben, le mystère, on le cherche, effectivement. Le scénario, il n'y en a pas. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a une observation extrêmement fine et assez précise, à la fois des rapports familiaux et du milieu dans lequel ça s'inscrit. Si, la haute bourgeoisie, comme c'est assez, je trouve ça assez bien vu, moi, assez juste et assez fin. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'y passe à l'intérieur ? Rien. C'est-à-dire que le film n'a rien d'autre à nous proposer que de nous dire que, bah, même dans chez les grands bourgeois, il y a des secrets de famille, des coucheries et des trahisons. Voilà. So what ? Ça ne mène à pas grand-chose. Il y a un petit plaisir de comédien quand même. Tu le disais, Jérôme, Marthe Keller, on l'adorera toujours. Laura Smet qui fait l'inventaire d'une succession. Alors on y voit une petite ironie avec toutes les histoire de l'héritage. Moi, je me suis dit, ah tiens, il choisit Laura Smet pour faire l'inventaire d'un héritage, c'est marrant. Mais enfin, c'est un peu tout ce qui me reste du film.
Xavier.
C'est-à-dire pas grand-chose.
Mais moi, j'ai l'impression que Marthe Keller, elle s'est emparée du rôle parce qu'il est mieux écrit et elle l'interprète mieux. Elle s'est même offert des sorties de chant qui sont presque théâtrales, qui sont presque du théâtre de boulevard. Oui. Elle est toujours un peu dans le cadre, comme ça, tout en gueulant. Enfin, il y a toujours une trace de sa voix, quelque part, avec son autorité et sa manière de tacler toute la famille, qu'elle déteste, hein, enfin, genre, en tout cas, pour laquelle elle n'a aucune affection. Le scénario est totalement raté. C'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'au milieu, il est donc nommé ministre, et je crois qu'on est tous d'accord, on ne comprend absolument pas pourquoi.
Non.
Et on se dit rétrospectivement, c'est très drôle.
Et ministre de la famille.
De la famille, ben voilà. Et là, on se dit, c'est amusant, il y a une ironie, puisqu'il est ministre de la famille, alors que sa famille est totalement dysfonctionnelle, et on pense qu'il est plutôt ministre de droite, ou en tout cas, pas d'extrême gauche. Donc, on se dit, c'est drôle, parce que les valeurs de la famille, chez lui, elles n'existent pas, elles sont totalement frelatées et détruites. Sauf que, le mettre au milieu, et ne rien en faire, ça ne sert à rien. Il aurait fallu peut-être le mettre au début et à ce moment-là voir les conséquences éventuellement de cette nouvelle autorité sur sa propre famille. Mais ça n'est pas écrit. Il aurait peut-être fallu le mettre à la fin. En tout cas, ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Ça ne fonctionne pas. On ouvre un œil parce qu'on se dit chouette, il est en train de le relancer, son film. Et non, pas du tout. Il s'arrête immédiatement au premier péage. Et pour l'instant, Louis de Lincsin, pour un deuxième film, ne transforme toujours pas l'essai d'un premier film qui n'est déjà pas très réussi.
Toujours un peu de mal à comprendre comment et pourquoi on produit des films pareils. Mais bref, la Sainte Famille. C'est Louis-Do de Lancsin. Alors, j'ai pas très bien compris la Sainte Famille, mais alors là, il y en a un que j'ai beaucoup aimé, que j'ai totalement oublié. C'est assez troublant. Ça s'appelle Le Lac aux Oies Sauvages, qui est un polar en plus, du chinois Diao Yinan, qui est le réalisateur de Black Hole, qui avait eu l'Ours d'Or à Berlin en 2015, avec Yu Jie, Guelun Mei et Liao Fan. Tu me dis, Xavier, si je me trompe. Donc ça dure 1h50. L'esthétique est ultra raffinée. Il y a des jeux de lumière, ça dont je me souviens. Magnifique. L'intrigue, totalement oubliée. Alors, je me souviens d'une chasse à l'homme qui se déroule beaucoup, beaucoup la nuit. D'un caïd chinois qui est poursuivi à la fois par des bandits et par la police. Là, déjà, ça, j'ai eu du mal. Et une prostituée prête à tout pour recouvrer sa liberté qui va tenter de venir en aide au caïd traqué. Encore une fois, souvenir visuel fort. Mais c'est rare que l'intrigue d'un polar, mais à ce point, est totalement échappée. Xavier, toi qui es un spectateur de séries frénétiques, est-ce que tu as éprouvé cette même chose?
Je suis dans le même état que toi, c'est-à-dire que je l'ai vu à Cannes, je n'ai pas compris grand-chose. Alors, il y a un jeu très sophistiqué de flashbacks, d'allers-retours, de récits dans le récit, enfin bon, il y a un moment où on a envie de dire, hey, pose-toi 30 secondes, remets les pages du scénario dans le bon ordre, tu verras, ça se tiendra quand même, il n'y a aucun problème. Alors je me souviens de Garçon à moto, qui revient à peu près toutes les 5 secondes, on roule beaucoup, la taxe carbone, elle en prend quand même plein la gueule dans le film, de femmes qui se prostituent avec des chapeaux blancs, au bord d'un lac.
Des baigneuses.
Ah oui, oui,
baigneuses.
Ça me revient. Mais il y a un moment, j'avais adoré Black Hole. Je crois qu'aujourd'hui, je pourrais pratiquement le reconstituer de mémoire. Ouais. Et celui-ci m'a échappé. Alors, très beau, très prétentieux. Disons un tout petit peu les choses. Je pense que le réalisateur a voulu vraiment se faire très, très plaisir. Mais il y a un moment, on a envie de leur dire, mais vous nous débarquez. C'est-à-dire, même la meilleure des volontés du monde de vouloir reconstituer le récit, de vouloir suivre ce polar, de vouloir s'impliquer dans l'histoire. Mais il faut nous aider un tout petit peu et l'esthétique prend vraiment le pas sur la narration.
Alors moi, je vais t'aider, Xavier. Il faut faire...
Parce que tu es très intelligent.
Non, parce que je l'ai vu deux fois. C'est très simple.
Tu l'as vu deux fois?
Je l'ai vu à Cannes et je l'ai revu là, comme il allait
pour le masque, oui.
Pour le masque et en étant... Mais accroché là, au siège de devant pour être bien, bien attentif, parce qu'à Cannes, on est fatigué. Et là, j'ai compris. Il y a un moment qu'il ne faut pas rater. Et là, on comprend tout. C'est-à-dire, je vais en dire le moins possible, parce que c'est un film qui vaut d'être vu. Ça commence par une scène de mélo noir formidable.
Deux fois, ça va leur coûter cher, quand même.
Devant une gare de province, sous la pluie pourrie, il y a un homme qui attend, il est poursuivi, voilà. Et il y a une femme qui vient. Et déjà, la réplique, il lui dit, mais pourquoi ma femme n'est pas venue? Une femme vient l'aider, c'est pas sa femme, c'est une
autre. Oui, il y a personne, c'est dans un lieu totalement vide.
Et cette femme vient l'aider, et après, lui va expliquer pourquoi il se retrouve ici, et elle va expliquer pourquoi c'est elle qui vient l'aider.
Ah, ça y est, j'ai encore oublié.
Donc c'est le moment où il ne faut vraiment pas avoir dormi, parce qu'avec ce moment-là, on comprend tout le reste du film, et c'est dans la tradition du mélo noir, et après, c'est vrai. Et après, c'est le classique de la course-poursuite, de l'homme qui veut se sacrifier pour la femme qu'il aime, sauf que généralement, la femme fatale, celle que vous voulez sauver, c'est elle qui est à côté de vous. Or, celle qui veut sauver est totalement prosaïque, elle n'est pas du tout sexy, et la femme qui l'aide, c'est pas celle qui veut sauver. Et c'est en ça qu'il y a tout un jeu de miroir. Vous avez compris ou pas?
Ce qui est un archétype du film noir, Eva.
Mais c'est le principe du film. Non, mais c'est formidable parce qu'il y a plein de choses du film noir. Il y a, oui, c'est un exercice de style, mais franchement, je m'en fiche. C'est un exercice tellement brillant que je prends. Et deux fois, bon, il faut dire aux gens de payer deux fois, mais ceux qui ont une carte de fidélité, ça leur vient pas cher.
Pierre.
Non, mais le grand sommeil, personne n'y comprend rien non plus à ce moment-là. Oui. C'est pas une question de comprendre. Non, c'est une course. Enfin, c'est très simple. C'est un voyou qui a tué un flic. Et puis voilà, il a une récompense. Et il va. Qui est-ce qui va récupérer la récompense? C'est bête comme chou. Pardon.
Oui, mais il y a du mélo qui s'ajoute dedans.
Et après,
dedans,
c'est
voilà.
Arrangé avec des flashbacks, avec des circonvolutions de scénario et un esthétisme. Alors, moi, je suis d'accord. Je trouve que Black Call, qui m'avait vraiment enthousiasmé. Oui. Et peut-être supérieur à ça. Mais cela dit, il y a des scènes absolument inoubliables, il y a une atmosphère, il y a un expressionnisme dans les couleurs, il y a ces flics qui cernent les personnages, qui patinent.
Ouais, c'est un peu too much. Hein, je veux dire,
c'est pas too much. C'est
même de très bon niveau, même dans du too much.
Mais Altman, quand il faisait le privé, c'était pas... Enfin, je veux dire qu'il y a une espèce de sophistication dans le film noir. Il a vu visiblement ce monsieur tous les classiques américains. Alors voilà, je trouve un exercice de style, c'est vrai. C'est pas un film politique, c'est pas un film social, encore que, parce que
on
les voyous et les
béton de...
voilà, encore malgré tout, comme toujours dans les films chinois, il y avait un film qui était sorti l'an dernier que j'aime beaucoup, qui s'appelait Une pluie sans fin, où il y avait aussi cette ambiance là, etc. Moi, je trouve que c'est un film tout à fait intéressant. Je préfère Black Call, mais si vous aimez le film noir où on comprend pas tout, mais on s'en fiche puisque c'est pas la logique qui est importante.
Non, mais vous comprenez tout si vous êtes attentif dans ce premier.
Oui, enfin, si vous voulez, il faut le voir deux fois pour le comprendre.
Non,
pardon.
Moi, j'étais fatigué la première fois. Quelqu'un qui est prévu là,
moi, je l'ai
là,
pas vu à Cannes, je l'ai
fois.
Vu qu'à Paris et j'ai à peu près compris. Voilà, enfin, c'est pas.
L'histoire, enfin, je reviendrai pas là-dessus. Elle est alambiquée à cause de la narration et tout ça. Moi, j'avoue que la première demi-heure, j'étais absolument stupéfaite parce que il y a pas un plan, une séquence qui ne regorge d'une trouvaille visuelle complètement démente. C'est extrêmement beau, mais c'est too much. C'est-à-dire, au bout d'un moment, on a envie de dire au réal, oh là là, tout doux bijou, quoi. Calme-toi.
Ah, tout doux. Tu leur parles comme ça. Oui, mais c'est pas mal, tout doux bijou.
Mais parce que y a pas...
je connaissais pas. Mais c'est bien.
Il y a pas une vitre de bagnole, une fenêtre d'immeuble ou une flaque d'eau dans laquelle il n'y a pas un reflet de quelque chose.
Ah oui, c'est agréable, Charlotte.
Dans un zoo, la nuit, c'est les visages des animaux qui sont éclairés par les tirs. C'est une baston entre des malfrats dans la nuit noire, mais comme ils ont tous des baskets avec des semelles fluorescentes, c'est assez drôle. On ne voit que les baskets et ça devient un ballet. C'est
même les flics
ont
les baskets fluo.
Je suis d'accord et je parlerai même pas du coup du parapluie. Avec un parapluie transparent, il va se passer un truc incroyable, mais trop d'effets tuent l'effet, quoi. Au bout d'un moment, ça devient complètement complaisant et ça l'est au détriment, un, de la narration, deux, de l'empathie qu'on peut avoir pour les personnages. On a zéro émotion.
Zéro. Mais
et complaisant à un point, Pierre, où il y a quand même une scène de viol quasiment à la fin qui arrive, mais qui n'a aucune justification de rien du tout. Et comme si toutes les épreuves que vont traverser ces fugitifs ne sont là que pour justifier les trouvailles visuelles du réalisateur.
Oui, mais ça vaut une place de cinéma quand même. On
mais
est
oui,
pas
c'est quand même.
Je suis d'accord qu'il y a un kiff visuel assez
grand. Voilà. Ah ben moi, je préfère quand même quand il y a des reflets dans les vitres, même s'il y en a un peu trop, que quand il n'y en a pas, avec des caméras qui bougent.
Much,
comme...
C'est too much, ça regorge, c'est une overdose.
Quand tu penses avec un sujet pareil à ce que n'aurait fait Mankiewicz, moi je suis... Oh. Le lac aux oies sauvages de Diao Yinan. Et puisqu'on parle de Chine, alors là, vrai coup de cœur, en tout cas que j'ai eu, pour un film qui s'appelle « Séjour dans les monts Fuchun ». Le chinois, en question, le réalisateur, il a 30 ans et des poussières, 31 ans. Gu Xiaogang, c'est long, ça dure 2h30. Ça a été présenté en clôture de la semaine de la critique. Et c'est le premier volet d'une saga familiale dans la Chine contemporaine, dont le titre emprunte à... Je dis un célèbre rouleau, je le savais pas avant, je l'ai découvert qu'après, peint au XIVe siècle. Tout commence dans un restaurant, une scène formidable du début, on croyait du sauté chinois, enfin sauté, hein, Claude sauté, pas des nouilles sautées, où quatre fils, les belles-filles, les petits-enfants fêtent les 70 ans d'une matriarche victime d'un AVC, elle doit être prise en charge par les siens.
mais ils sont tous endettés, et c'est le début d'un film où on va voir autour la Chine se transformer, et la ville d'Hangzhou, où ça se passe, c'est-à-dire à 200 km de Shanghai, se reconstruire, être livré à la spéculation et au libéralisme à tout craint, touchant, chauffe, ce long fleuve tranquille, j'allais dire communiste, qui coule au milieu de cette région escarpée. L'image, elle est somptueuse, et pourtant elle n'est pas chichiteuse. Hein. Elle est simple, dans un cadre magnifique. Et là, pour le coup, je n'ai pas senti le temps passer. Et là, je peux vous raconter presque scène par scène ce film. Est-ce que Pierre, tu me comprends quand je dis ça ?
Ah oui, oui, c'est formidable. Moi, je trouve que l'année 2019 s'était ouverte en janvier par un film chinois, c'est pour ça que j'en parle, qui s'appelle An Elephant Sitting Still, ouais, qui est une merveille. Chaque fois, je le dis, parce qu'on peut le trouver en DVD, voyez-le, c'est magnifique. Et elle s'est terminée, enfin, c'est sorti le premier jour, il y a quelques jours, par ce film-là, qui est aussi beau, totalement différent, mais aussi beau dans le côté fresque, le côté mouvement de caméra. Il y a ce mouvement absolument génial, mais qui n'est pas du tout voyant, tu as raison, où on prend un couple comme ça, qui marche sur la rive, qui va vers là, et ça suit
on verra dans la
minutes.
Scène finale avec ces escaliers, il y a un plan.
Des escaliers magnifiques.
Des plans séquences,
mais
incroyable.
C'est sublime.
Une tendresse pour les personnages, tous sont absolument magnifiquement croqués. Enfin voilà. Alors on a hâte de voir les deux autres qui vont suivre. Mais vraiment le cinéma, c'est vraiment l'année asiatique cette année, parce que vraiment je vous conseille vraiment de voir An Elephant Sitting Still en DVD et voyez celui-là qui est absolument magnifique aussi. C'est splendide.
Charlotte.
Oui, je suis complètement d'accord avec Pierre. C'est très émouvant, je trouve, de voir la naissance d'un cinéaste. C'est-à-dire que
je rappelle 30 ans.
Il a 31 ans. On connaît pas du tout ce garçon. Et au bout de 10 minutes de film, on se dit waouh. Waouh par la précision de sa mise en scène, le regard qu'il porte sur chaque protagoniste. Et pourtant, ils sont nombreux au début, puisqu'il y a, on nous présente un peu toute la famille. Mais il va petit à petit glisser de l'un à l'autre à l'intérieur du film sans qu'on s'en aperçoive. C'est magnifique. Et c'est un film qui est un peu à l'image du fleuve qui traverse cette ville, c'est-à-dire qu'il y a une force tranquille. Les événements arrivent les uns après les autres et même si les événements sont assez dramatiques pour cette famille de classe très très moyenne, qui a des difficultés d'argent, tous sont plus ou moins endettés entre eux.
Le nœud de l'intrigue,
voilà, les problèmes financiers et comment ils vont devoir s'adapter au boom économique de la Chine et à cette ville en pleine mutation, puisque les immeubles sont démolis, on promet des constructions modernes à venir. Et alors,
tout ça au milieu d'une nature absolument magnifique.
Au milieu de la nature, et très étrangement, il y a une sorte de calme, de sérénité, c'est-à-dire que chacun des protagonistes accueille ces transformations urbaines avec une sorte de fatalité et va recomposer sa vie en fonction de ça. Ce que je trouve très beau aussi, c'est qu'on voit vraiment la différence des générations et comment la politique de l'enfant unique fait que les enfants sont les uniques dépositaires de l'avenir des parents et comment c'est extrêmement difficile pour eux puisque les parents, pour s'assurer des vieux jours un peu tranquilles, vont évidemment tout faire pour que leurs enfants aient une bonne situation. Donc ça passe par des mariages plus ou moins arrangés pour les filles ou des études, un métier, enfin pour les garçons. Et que si les enfants aspirent à d'autres choses, eh ben ils sont tiraillés entre le respect qu'ils doivent à leurs parents et leurs aspirations personnelles. C'est bouleversant. Les acteurs ne sont pas des acteurs professionnels, ce sont des amateurs, les amis, la famille du réalisateur. Eh ben, ils sont tous d'une justesse incroyable. Vivement le deuxième, c'est le grand film de ce début d'année.
Xavier, on pourrait se dire que c'est presque l'histoire d'une série, ça pourrait être, puisqu'il y aura deux. Et en même temps, je me dis que là, pour le coup, c'est la primauté du cinéma sur une intrigue de série, c'est-à-dire que c'est esthétiquement quand même tout à fait privilège du cinéma.
Entièrement d'accord, et même à l'intérieur du premier volet, il y a déjà des ficelles, j'allais dire, sériales, de séries,
absolument,
avec des suspens, avec des intrigues parallèles, avec cette beauté absolue de la mise en scène. On pense énormément, mais ça n'écrase jamais à Jia Zhangke, qui lui-même a tourné des zones urbaines détruites par le pouvoir hégémonique du libéralisme, de l'ouverture du Parti communiste à une économie plus de marché, on va dire, qui a utilisé aussi beaucoup le paysage urbain comme métaphore de ce qui était en train d'arriver aux populations. On se dit, bon, le mec, il est sur des... Et en même temps, il a une personnalité, c'est-à-dire qu'il y a, ce que tu as très bien dit, Charlotte, une espèce d'impassibilité, de sérénité de la mise en scène qui est en même temps d'une précision extraordinaire et qui filme à la fois l'ensemble du paysage urbain, la nature, ce fleuve sur lequel on coule, et puis les différents... Alors, il y a les différentes intrigues,
les différentes saisons.
Il y a les différentes intrigues de la famille, voilà, de la famille, ouais. Mais il y a aussi des personnages afférents qui nous racontent vraiment le sacrifice d'une classe moyenne, et c'est passionnant comme un feuilleton, c'est-à-dire qu'il y a des rebondissements, des coups de théâtre, des mariages arrangés qui sont quand même, toutes les telenovelas reposent sur les mariages arrangés et les tromperies. Voilà, il y a des menaces, il y a un fils qui a emprunté de l'argent et évidemment pas aux bonnes personnes.
Et puis la fille qui s'en
voilà.
Va.
Voilà. Et cette mise en scène qui n'accentue rien et qui accompagne tout à l'exacte distance pour un premier film. Il n'a pas eu la caméra d'or à Cannes, même si j'aime beaucoup la caméra d'or de cette année, Noé Strauss-Madrès. Mais,
oui, ce qui est d'ailleurs incroyable.
Incroyable.
Un cinéaste de 30 ans qui a ce talent-là et cette ambition-là aussi d'ailleurs, qu'il ait échappé à la caméra d'or, ça reste.
C'est, voilà, ça reste le mystère. En tout cas, n'y échappez pas, parce que c'est le grand film de cette fin d'année, comme l'a très bien dit Charlotte, et comme l'ont très bien dit d'ailleurs Pierre.
Oui, et c'est, j'espère aussi, le film de la nouvelle année, puisque c'est, il faut que ça dure un peu ce succès-là.
Bien sûr.
J'espère, Eva.
Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je voudrais juste ajouter une chose. C'est que cette impression que...
Tant que c'est pas un bémol, ça va
voilà.
Tout ajouter.
Non, que tout coule. Oui. Alors que c'est un film avec beaucoup de ruptures, finalement. On ne parle que d'argent. C'est une société où aujourd'hui, quand la grand-mère est hospitalisée, c'est combien ça va coûter. Ils sont tous endettés ou on leur doit de l'argent. Donc l'argent est devenu le ressort de ce monde. En même temps, comme Jazanke, à une échelle plus petite, c'est-à-dire échelle d'une petite ville, il montre un monde qui évolue. L'immeuble dans lequel les gens habitent est en train d'être démoli. Et parallèlement, on voit le fleuve qui coule et la vie qui évolue. On voit la génération des parents qui a pris ses enfants en otage. On s'est sacrifié pour vous, vous devez nous rendre. Et vont arriver très doucement des désirs d'indépendance et des indépendances qui se prêtent. Donc il y a beaucoup de choses. Quand on détaille l'histoire, on se dit, mais il y a beaucoup de choses dans ce film. Il y a un fils un peu escroc, il y a ceci. La manière dont il filme le petit fils trisomique est magnifique. Il y a énormément de choses et pourtant, on a l'impression que tout coule. Comme si
grâce
à sa mise en scène.
Et ce fleuve.
Il prend en même temps toute la vie. Le paysage qui évolue, l'économie qui change, les fondements d'une société traditionnelle qui va être amenée à bouger, des personnages qui, gentiment, doucement, comme la fille, prennent leur indépendance sans se fâcher. La scène du mariage près d'un arbre est magnifique. Donc il filme tout ça et il y a cette chose que nous donnent les très très bons metteurs en scène, c'est que l'impression qu'on a qu'ils nous ont dit un petit bout des gens, mais que ce petit bout est très dense et que derrière il y a plein de choses et qu'on n'a pas besoin de les connaître et que pourtant on les connaît. Quand la mère se met une sorte de masque sur le visage et qu'elle parle au mari qui est allongé et on a tout ce qu'est la vie d'un couple, tout ce que c'est, voilà, il y a tout ça dans ce talent de mise en scène. Et il y a cette sorte d'harmonie totale d'un monde qui est en même temps totalement déchiré parce qu'il est fracturé de toutes parts.
Reste un mystère comment un pays où la censure est si efficace réussit à faire sortir et émerger de jeunes cinéastes aussi inventifs, aussi libres. C'est troublant.
Il a ramé pour la production. Oui. Ce sont ses amis et lui-même qui ont financé le film.
Allez voir, courez voir, galopez voir Séjour dans les monts Fuchun de Guk Saogang. On a pris le temps qu'il fallait pour ce long film, donc on va être beaucoup plus rapide pour les deux suivants. Jésus, qui est un premier long métrage d'un japonais, Hiroshi Okuyama, film bref, il dure 1h16. Je trouvais assez touchant avec deux jeunes garçons qui rappellent pour le coup assez le cinéma familial de Kore-eda. L'un de ces deux jeunes garçons, Yura, quitte Tokyo avec ses parents pour aller vivre à la campagne chez sa grand-mère. Il est scolarisé dans une école catholique. Où, d'où le titre, Jésus lui apparaît, mais alors sous la forme d'une petite figurine, et où ce garçon, un peu introverti, se fait un ami, son seul ami, qui va être renversé par une voiture dans la rue. Une sorte de fable mystique où j'ai découvert la place de la communauté chrétienne au Japon, qui est quand même quelques 500 000 pratiquants, un pays majoritairement bouddhiste et shintoïste. Pourquoi ? Parce que j'ai raconté l'histoire de la...
Bah oui,
de
t'as fait ton Pierre Murat, bah oui, c'est pas grave, mais
pourquoi
il y a une passation de rôle pour cette nouvelle année.
Qu'est-ce que ça change au film ?
Parce qu'il y a un effet de surprise, on ne le voit pas venir.
Non, d'abord, c'est pas la fin du film, d'abord, c'est au milieu.
Oui, mais on ne le voit pas venir, justement, et c'est comme un film où le cœur du film arriverait sans tambour, doucement. Oui, mais c'est un très beau film. Enfin,
bon,
tu m'as pas donné la parole, mais comme je l'ai pris, je la garde
deux
secondes.
Non, je vais pas te la donner dans ce cas-là. Si tu la prends contre ma volonté,
comment ils sont,
c'est
incroyable. Non, mais c'est incroyable les gens de radio. T'as remarqué
Non, je trouve que la manière dont ça arrive est une très jolie manière.
Et Pierre ?
Oh, c'est un petit film charmant, oui, très triste, très nostalgique, sur le premier chagrin dans la vie d'un adolescent, avec une petite figurine, tout ça est
Mais vous trouvez pas que sur la cette petite communauté quand même chrétienne au Japon,
si.
Ah mais moi j'étais troublé de voir une
ah oui, on découvre ça, c'est vrai.
Ah oui,
mais enfin cinématographiquement, pardon, parler cinéma aussi, c'est
mais il a 23 ans, Pierre.
Oui, puis les deux et puis les deux.
Il a 23 ans le réalisateur. Et alors eh ben c'est très prometteur un premier film comme ça à 23 ans.
Non, c'est pas
ans,
prometteur,
c'est, quand même pas
c'est... non, c'est pas prometteur. Ah, j'ai si. Pas envie forcément de me précipiter voir le deuxième film de ce jeune homme qui en aura 25. Non, mais c'est agréable. Enfin, c'est agréable, c'est nostalgique, c'est tout ce que vous voulez. C'est, enfin, c'est première désillusion, comme on dit. Voilà, c'est une petite chose.
Rapidement, voilà. Mots, oui. Le film est sensible, il est délicat. Moi, je le trouve très prometteur. On l'a dit, il est très jeune, le réalisateur. Ça n'a évidemment pas du tout l'ampleur du film précédent dont on parlait, mais c'est une jolie petite chose à découvrir. C'est sensible.
Et Xavier.
Bon, je suis entièrement d'accord avec Eva et Charlotte. Je trouve que c'est un film extrêmement, c'est plus profond que ça n'en a l'air, parce que d'abord le Jésus qui lui apparaît est un Jésus un peu espiègle, donc
oui, il
ne sait pas très bien quoi faire, parce qu'on lui parle d'un Jésus qui fait des miracles, donc il se dit que peut-être éventuellement, alors tu as parlé de l'événement tragique, c'est quand même aussi la perte de la foi, en tout cas c'est le moment où on mesure un tout petit peu l'importance de la foi dans une vie, foi qu'on lui a imposée, qu'il n'avait pas traversée.
Oui, enfin, est-ce que c'est la perte de la foi, c'est même pas sûr, rien ne le prouve.
Plus, la foi, hein, il la découvre en arrivant dans ce lycée catholique, il l'ignorait totalement, il y croit, il veut y croire, et subitement il est déçu, subitement il y a une trahison de ce petit Jésus là, ah oui, au sens vraiment et je trouve que le film sans appuyer dit vraiment quelque chose sur cette désillusion, mais d'une désillusion liée à la religion.
Donc Jésus c'est Hiroshi Okuyama et puis quelques mots de l'art du mensonge de Bill Condon avec Hélène Mirren, Ian McKellen, Jim Carter, l'arnaqueur Roy Courtenay. C'est donc Ian McKellen surf sur un site de rencontre et bon, il fait la connaissance d'une veuve richissime qui est Betty McLeish, qui est jouée donc par la Queen Hélène Mirren, qui ouvre son cœur, sa porte et son compte en banque. La suite, je vais pas vous la raconter. Ça dure quand même 1h50. Est-ce que ça vaut pour autre chose que la rencontre d'Hélène Mirren et du Gandalf du Seigneur des Anneaux? Je vous pose la question rapidement. Tiens, je vais la poser à Eva, à qui j'ai...
Eh bien, je vais répondre très rapidement. On se demande qu'est-ce qu'ils sont venus faire Gandalf et The Queen dans cette galère. Ben... Il est rare que des films vous mettent en colère. Celui-ci m'en colère. C'est une sorte d'agrégat de comédie qui n'a pas de sens. Les films d'escroquerie, il faut David Mamet parce qu'il roule le spectateur qui est fou de joie. Là, les escroqueries sont de bas étage. On devrait s'attacher à ce type qui, au fond, est un sale mec. Et on en arrive même à, je veux pas le déflorer pour les rares personnes qui iraient le voir, à faire venir le nazisme dedans. C'est...
Oui, parce qu'il y a une scène à Berlin qui va jouer.
Et comme j'ai la parole, je vais juste dire un mot de Jésus que je trouve vraiment subtil sur l'enfance. J'ai réussi à le caser.
Xavier?
Je pense que si tu racontais la suite de ton résumé, les gens se diraient, oh, garçon, va pas bien quand même. Il va falloir qu'ils prennent des vacances.
Oui, c'est ça.
J'ai jamais vu un truc aussi con.
Oui.
Hein, je crois qu'on va s'arrêter
là. Si, on en a vu.
Saluons quand même le scénariste qui a réussi à vendre ça. Non, c'est très con. C'est très très con. Dès la première scène, on sait qu'Hélène Mirren n'est pas du tout dupe de cet arnaqueur.
Elle a des besoins d'argent à ce point?
Bah, elle a produit récemment une série pour HBO, Catherine the Great, où elle joue Catherine II,
ouais,
et qui a coûté beaucoup, beaucoup d'argent.
C'était bien ou pas?
Peut-être. Non, pas très bien en plus. Mais elle était tous les plans, comme elle était productrice. Mais du coup, il faut peut-être qu'elle paye le film.
Ah, c'est ça.
Mais que de talent gâché, et vraiment, il y a un moment, on s'en fout de cette intrigue.
Ah, mais on s'en fout dès le début. De toutes les manières, dès le début.
Ah, mais même quand les nazis arrivent.
La fin et le pompon. Le retournement de fin est quasiment obscène.
Ouais, mais ça, pour le coup, on pourrait presque la raconter, Pierre.
Bah non, c'est, mais non, tu disais la rencontre, mais en plus, la rencontre est pas du tout intéressante. C'est-à-dire que elle est...
Sur le papier, elle
oui, sur le papier, c'est vrai, papier. Mais elle est plutôt bien. Mais lui est pas bon du tout, Ian McKellen, qui est un grand acteur shakespearien aussi avant tout. Enfin, il a fait un Richard III absolument magnifique. Là, il est emprunté, il est pas bien. Mais je suis comme Xavier, moi je suis en admiration devant le scénariste, parce que il a dû se dire à un moment donné, mais comment vais-je m'en sortir? Je le vois, tu sais, avec du scotch sans doute, ou je sais pas quoi, ou d'autres produits illicites, en disant, mais qu'est-ce que je vais pouvoir inventer pour vendre mon script? C'est inouï. C'est ça qui est...
N'y allez pas,
parce que ça vaut vraiment pas le coup de se poser la réponse.
Ce qui est assez inouï, c'est que sur ce thème de l'arnaqueur arnaqué, quoi, dès le début, on se doute que ça va être ça. Pendant tout le film, le spectateur, on se fait 1000 scénarios en tête et qui sont tous plus intéressants que ce qui va nous être proposé in fine. Ça part complètement en sucette. La dernière demi-heure est un grand n'importe quoi. Et la solution, on va dire, qui nous est proposée, mais pas une seule seconde, on aurait pensé à un truc pareil. C'est ni fait ni à faire.
Ça s'appelle l'art du mensonge et il n'y a pas une once d'art. Au moins, sachez-le avant d'y aller, à vos risques et périls. Allez, un conseil pour terminer cette émission rapidement. Eva.
Je vous recommander un livre, Clic-Clac, de Nathalie Azoulay, édité chez Peuel. C'est pas un livre sur le cinéma, c'est un roman dont le cinéma est la matière même du film. C'est une cinéaste qui aurait, française qui aurait l'envergure d'être Claire Denis et qui s'apprête à tourner une sorte de mélo avec une scène de gens qui se sont séparés et qui se rencontrent. Et ces acteurs comprennent pas. Et on va voir que c'est un film qui nous amène à Elia Kazan, à Demi, et qui nous amène surtout à sa mère. C'est un très beau livre de la perte de la mère.
Nathalie Azoulay chez POL.
Chez POL.
Le conseil de Xavier, autre qu'une série.
Comme je trouve qu'on n'a pas parlé beaucoup de cinéma asiatique aujourd'hui, ça nous manquait un tout petit peu, ce qui est un peu injuste par rapport à la qualité de l'ensemble du cinéma asiatique, je vais vous recommander la sortie en salle d'un film qui a une dizaine d'années, mais qui n'était jamais sorti sur grand écran, qui est un chef-d'œuvre, et ça je pèse vraiment mes mots, de l'animation japonaise. C'est Millennium Actress de Satoshi Kon. C'est un film extraordinaire, et quand on me dit que l'animation, ça n'est pas du cinéma, non seulement j'ai envie de donner des baffes, mais allez voir Millennium Actress, vous verrez absolument en quoi c'est du cinéma, et comment l'animation, parce que c'est un film sur la comédienne, sur le fétichisme de la comédienne, sur l'immortalité de la comédienne, comment l'animation était absolument le seul et unique média pour donner de l'ampleur à cette merveille absolue de cinéma, et dommage aux comédiennes et aux septièmes.
Mais c'est animation pour tout public, jeune, moins jeune, ou c'est juste pour les...
On peut le voir quand on est adolescent, il n'y a aucun problème. Voilà. Mais c'est un récit d'une grande ampleur, parfois un peu compliqué, mais au contraire du lac des oies sauvages, on comprend tout.
Et on s'en souvient. Le conseil de Charlotte.
Charlotte, quand elle était petite, on l'a beaucoup appelée Charlot. C'était mon surnom.
T'as été traumatisée?
Pas du tout, au contraire, ça a développé mon amour pour Charlie Chaplin, à qui la Philharmonie de Paris, en ce moment, fait une très belle exposition qui s'appelle Charlie Chaplin, l'homme orchestre, et on redécouvre Charlie Chaplin, mais à travers ses dons de musicien. On connaît évidemment le réalisateur, l'acteur, mais n'oublions pas qu'il composait toutes les musiques de ses films, et donc c'est par le prisme de la musique qu'il compose, mais aussi la musique de son corps. C'est-à-dire que son corps, par sa démarche, ses mouvements, ses chutes, influait, enfin c'était un rythme, et on découvre tout ça dans cette expo, c'est l'ADN de la musique.
C'est une expo sonore.
C'est une expo sonore, avec des archives inédites. On voit sa rencontre avec Nijinsky, on voit toutes les rencontres qui l'ont influé autour de la musique. C'est à découvrir jusqu'au 26 janvier à la Philharmonie de Paris.
Et enfin, un Mankiewicz, peut-être, qui va ressortir.
Non, mais presque. Enfin non, deux DVD. Alors, si vous avez passé un réveillon extrêmement joyeux... alors
Xavier, ça a été son cas.
Voilà, vous pouvez voir un film un peu mélancolique. Et je vous conseille, en DVD, le Professeur de Valerio Zurlini, qui est un des plus beaux films d'Alain Delon, dans la version intégrale, restaurée. Tout ça est très, très, très beau. Et si vous avez passé un réveillon un petit peu... tristouille.
Xavier.
Alors, vous pouvez voir un coffret aux éditions Montparnasse de la comédie américaine Screwball Comedy. Il y a notamment La Dame du Vendredi. Alors, c'est pas de Mankiewicz, mais c'est de Howard Hawks, qui est une petite merveille. Alors voilà, ça dépend. Le professeur ou le coffret de la comédie américaine chez Montparnasse.
Tous ces conseils, vous les trouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Charlotte Lipinska, Eva Bétan, Xavier Le Herpeur et Pierre Murat pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam, et ce soir à la technique au Théâtre de l'Alliance Française. Et je les remercie, il y avait Cédric Chatelus, Nicolas Depagraf, Jérémy Kaufmann, réalisation signée Xavier Pestugia. Notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, c'est le jeudi 16 janvier. Je vous attends très nombreux au Théâtre de l'Alliance Française, 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour deux émissions, l'une consacrée au livre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parle de littérature. À dimanche prochain sur France Inter, évidemment.